Le débat africain. Alain Foucault.
The Union flag flying for the last time.
Le drapeau anglais flotte pour la dernière fois. La princesse Alexandra était présente, bien sûr, pour la cérémonie d'indépendance qui prendra effet à minuit. Ce fut un remplacement de drapeau spectaculaire, orchestré par la nouvelle nation. Le jour suivant, le nouveau Parlement ouvrait sa première session.
Ce 1er octobre 1960, un sixième de la population de l'Afrique accède à l'indépendance. Quasiment tout ce que la planète compte d'hommes d'État de premier plan, de Nelson Rockefeller des États-Unis d'Amérique à Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, en passant par le général Dayan d'Israël, ont effectué le déplacement pour assister aux cérémonies à Lagos. Ici, l'évolution vers l'indépendance a été préparée, guidée au moyen de conférences réunissant toutes les parties. Ici, le leader qui prend les rênes du jeune État n'a pas été choisi par la couronne britannique comme dans la quasi-totalité des pays francophones. C'est l'un des plus virulents leaders nationalistes, le plus hostile à l'Angleterre. Nnamdi Azikiwe, affectueusement appelé Zik, qui va devenir le premier président de la République fédérale du Nigeria. Et pourtant, l'immense territoire de plus de 920 000 km², avec ses 200 groupes ethniques, riche de son immense réserve de pétrole et de gaz, est loin, très loin d'être uni. Mais tout semble optimiste quant à son évolution. 60 ans après cette date célébrée avec faste dans tout le pays, que retenir? Quel bilan dresser de ces 6 décennies de souveraineté internationale? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain spécial 60 ans d'indépendance, diffusé en simultané sur RFI et France 24, nos réseaux sociaux, et repris par une dizaine de télévisions africaines. Le débat africain qui est ce 1er octobre à Lagos, l'ancienne capitale du Nigeria, aujourd'hui capitale économique, avec ses 22 millions d'habitants. Un véritable périple à raconter dans un autre cadre, tant être ici a été difficile, périlleux, épique, en plus en cette période de Covid-19. Mais nous étions déterminés, puisqu'il n'était pas logique, pas cohérent, de dresser les 60 ans d'indépendance des États africains qui ont accédé à la souveraineté en 60, sans passer par le territoire le plus peuplé et la première puissance économique. Nous y sommes. Plusieurs invités sur ce plateau improvisé, montés dans des conditions dantesques, dans le quartier de VI, Victoria Island, le quartier des affaires. Nous nous sommes installés in extremis dans l'un des rares lieux ouverts en cette période avec des Nigérians qui nous font l'honneur de parler dans la langue de Molière, Cocorico. D'abord, Madame Tabia Prince-Wall, qui est journaliste au quotidien nigérian de Vanguard. Bonjour, Madame Tabia.
Bonjour.
Notre seconde invitée est Madame Oleromi Comfort Soneya, écrivain, ancienne professeure de langue française et de linguistique appliquée. Oleromi était candidate du parti COA à l'élection présidentielle de 2015. Bonjour, Madame Oleromi.
Bonjour.
Notre troisième invitée est Madame Bola Okoupé, spécialiste dans les secteurs pétroliers et gaziers. Bonjour, Madame Okoupé.
Bonjour.
Notre quatrième invitée est l'unique homme de ce plateau, professeur Bola Akinteri Nua, ancien directeur général de l'Institut nigérian des relations internationales à Ikoyi, Lagos. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Alors, j'ai envie de dire, nous sommes le 1er octobre, grande date sur ce plateau. Quand je me tourne de ce côté-ci, je sais que les dames n'étaient pas là. Mais vous, vous étiez là, je suppose. Ce 1er octobre, hein, vous aviez quel âge?
5 ans.
Ouais. Est-ce que vous avez le souvenir de ce qui s'est passé ce 1er
octobre? Oui, absolument. Je sais qu'il y avait tant de joie, on était tous... on va être indépendants, on nous a donné des petits drapeaux. Mm-hmm. Il fallait se mettre à côté, en rang, mm-hmm. Dans la rue, pour saluer je ne sais plus qui. Mais on était là.
Oui, c'était la fête en gros.
Et c'était la fête, la vraie fête. On a reçu des cadeaux.
Mm-hmm. De qui?
De l'institution, peut-être de nos écoles. Mm-hmm. Il y avait plein à manger. On nous a donné des petites boîtes de nourriture, de gâteaux, mm-hmm. de choses à manger. Non, c'était vraiment de la
Mais vous
fête.
Étiez à Lagos à cette période?
J'étais à Ibadan.
À Ibadan. Vous étiez à Ibadan. Pas très loin d'ici.
À une heure et demie de route.
Voilà. D'ici. Voilà. Professeur, vous étiez là?
Certainement. J'étais là. On était à l'école primaire à ce moment-là. Rémi a tout à fait raison. Je me rappelle bien que ce jour-là, on a bien fêté, on nous a donné des drapeaux. Je pense que le gouvernement, à ce moment-là, a bien fabriqué des verres avec des signes, tout ça. On a distribué ça à tout le monde.
Mais pour vous, ça signifiait quoi l'indépendance? Est-ce que vous compreniez ce qui se passait?
À ce moment-là, j'étais content. Ce n'était pas à cause de l'indépendance. C'était parce qu'il y a quelque chose à manger. On va casser la croûte. Et avec des cadeaux qu'on avait donnés à tout le monde.
Pour vous, et ça en ligne et tout ça. En réalité, c'était la fête, point à la ligne. Il n'y avait pas cette grande symbolique de nous sommes libres, en réalité. Vous ne pensiez pas
à liberté. On chantait, on dansait, mais sans reconnaître l'importance
de l'indépendance.
De l'indépendance.
Alors, vous, par contre, vous n'étiez pas là.
Non. C'est clair que moi, par exemple, je n'étais pas là.
C'est une chose qui est évidente. Alors, quelques années seulement après cette indépendance, on va tomber dans l'instabilité dans ce pays. On va tomber dans l'instabilité, des coups d'État, etc., etc. On va essayer de faire un bilan de toutes ces années. Commençons par le bilan politique. J'ai envie de dire, quand on est au Nigeria, qu'est-ce qui peut expliquer cette instabilité politique? Comment l'expliquer aujourd'hui? C'est récurrent dans ce pays. Pour vous, c'est quoi?
Pour moi, donc, mon point de vue personnel et, si j'ose dire, le point de vue aussi de ma génération, même si je n'aime pas utiliser le trop gros grand mot, mais j'ai le sentiment, en fait, que c'est fait exprès, c'est politique, c'est voulu et c'est même nécessaire.
Vous pensez ça?
Oui, parce qu'il y a une classe de personnes qui s'enrichit à travers cette instabilité, donc qui ne peut ni rester au pouvoir, parce que le pouvoir n'est pas acquis de manière démocratique, ou pas tout à fait de manière démocratique. Donc l'instabilité, en fait, contribue au fait politique lui-même. C'est nécessaire. Il faut que ce soit comme
mais
ça.
Mais depuis tant d'années, parce
depuis
que,
tant d'années, oui, parce que
le premier coup d'État arrive moins de 6 ans après l'indépendance.
Dès le début, c'est vrai que je n'étais pas là, mais ma lecture de l'histoire me dit ça, en fait. C'est que dès le début, il y avait, en fait, une espèce d'arrangement entre élites politiques qui s'est très, très vite fissurée. Parce que l'indépendance, en fait, pour moi, dans ma lecture historique, est venue, mais pas pour livrer des biens de prospérité, de richesse, etc., à la majorité de la population. C'était quelque chose qui a été fait entre élites, entre eux, pour le bienfait des élites qui ont remplacé les élites coloniales.
C'est donc, étonnant,
dès le début, le pacte,
ça, hein.
Le pacte, en fait, était entre un petit groupe de personnes qui avaient leurs manigances,
leurs
arrangements, etc. Voilà.
Pour leurs intérêts personnels.
Voilà.
Dans les pays francophones, on dit toujours que c'est le colonisateur qui a instauré quelque chose. Ici, en revanche, les conséquences sont les mêmes.
C'est
la même chose.
Moi, je pense que c'est l'intérêt personnel. Il y en a qui vont retirer le pouvoir, là. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens divers qui vont garder le pouvoir.
Et donc, ils s'arrangent pour garder le pouvoir en créant l'instabilité.
Oui, mais je ne sais pas si ce sont eux qui ont créé l'instabilité. Parce que les anciens colonisateurs...
La Grande-Bretagne, en l'occurrence.
La Grande-Bretagne, j'hésitais un peu à préciser. C'est qu'ils avaient aussi contribué.
Oui. Déjà, c'est vrai.
Et il n'y a aucun doute qu'en partant, ce n'était pas absolument dans leur intérêt d'avoir en Nigeria un pays fort.
Mais en quoi ça menaçait la Grande-Bretagne que le Nigeria soit fort? Elle aurait pu peut-être être contente que le Nigeria devienne une puissance.
Parce que leurs intérêts restaient quand même dans le pays. Selon les analyses qui ont été faites, il y a une partie au nord, qui n'était pas bien scolarisé.
Qui était en retard sur le reste.
En retard sur le reste, mais qui était en quelque sorte plus, peut-être, confortable avec les Britanniques.
D'accord, c'est-à-dire qu'ils étaient plus arrangeants.
Donc, la Grande-Bretagne aurait promis le pouvoir au nord. Et Pourtant, c'était les gens du Sud qui avaient fait toutes les universités.
Mais on promettait à ceux du Nord.
Européennes, etc., qui étaient prêts pour cette indépendance.
Professeur Bola, vous partagez ce point de vue-là, que le colonisateur a favorisé ceux du Nord, les a mis en conflit avec ceux du Sud.
C'est ce que j'appelle le facteur colonial. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question-là. Du point de vue polémologique, je partage le point de vue de Rémi. Le proverbe en France, on nous a dit que ordre et contre-ordre égale désordre. Le facteur qui explique l'insécurité, l'instabilité, s'explique essentiellement par ce facteur de l'ordre et contre-ordre.
Expliquez-nous ça mieux, comme ça on va mieux comprendre. Parce qu'on est dans une émission, ça va vite.
La population du Nigeria en 1960, c'est quoi? Les études, les recherches scientifiques nous montrent bien que la Grande-Bretagne a touché le résultat de recensement. Par exemple, le facteur de corruption y est. Ça s'explique.
On va venir, donc, on va venir à la corruption, parce que je voudrais parler surtout, d'abord on va arriver à la corruption qui était évident. Il est évident qu'on va en parler dans ce pays-là, mais la
ce
stabilité politique...
Ce que j'essaie de dire ici, c'est que quand je dis ordre, l'ordre résulte de ce qu'on a dit, ce qu'on présente au Nigeria comme population. Le peuple du Nord, par exemple, quand on a échangé, je pense combien est-ce qu'on avait donné au Nord. Au Sud, dans le Sud, ils ont dit non, c'est pas vrai, contre-ordre à ce niveau-là.
Alors, allons-y vite, parce que si vous expliquez comme un prof en radio, on ne va pas s'en sortir. Alors, pour moi, ça veut dire qu'on a triché sur le recensement, en faisant qu'une partie de la population soit plus importante, alors que ce n'était pas vrai. Quelle est la population qui a été grossie, selon vous, par le colonisateur?
En 1934, précisément en 1930, selon les Anglais, la Grande-Bretagne, les Yoruba, Nigeria, du sud-ouest, était la population la plus
importante.
La plus importante. En 1955, ça restait, les Yoruba étaient toujours
les plus importants.
La plus importante. Mais maintenant, après l'indépendance, la situation maintenant, la vérité a changé. C'est la première raison
L'instabilité politique. Mais est-ce qu'il y a aussi le fait que déjà, la nature même d'un État comme le Nigeria, qui compte 200 groupes ethniques, fait que, de fait, il va y avoir une instabilité parce qu'il y a une tension entre ces ethnies, parce qu'il y a des confessions différentes? Là, je m'adresse par exemple à Bola. Est-ce que pour vous, ça n'est pas une des raisons?
Je pense que oui, parce que la diversité entre tous les ethniques, les groupes ethniques, ça pose des problèmes tout le temps.
Oui, mais comment faire alors qu'on a un État fédéral?
Non, honnêtement, moi, je suis pas d'accord. J'ai pas. C'est une raison. On dit beaucoup ça dans les médias. Hein, c'est une des raisons préférées des journalistes, par exemple, pour expliquer le Nigeria. Ah, il y a beaucoup de monde. Nous sommes presque 200 millions, 200 ethnies différentes. Mais honnêtement, je pense pas que c'est. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette différence est manipulée par les politiques. Moi, bon, je ne suis pas très bien, mais j'ai quand même le souvenir quand j'étais enfant, par exemple. Donc moi, je suis chrétienne. Je viens de différentes ethnies, en fait. Ma mère est Yoruba, mon père vient de l'État de Rivers. Et dans toute ma famille, nous étions tous mélangés. J'avais des voisins, par exemple. Je sais que c'est un cas personnel, mais je retrouve cette histoire dans beaucoup de familles, beaucoup de personnes, où tout le monde s'épousait. J'avais des voisins qui étaient musulmans du Nord, de Borno. J'allais à la mosquée avec eux. Eux venaient le dimanche à l'église catholique.
Tout à fait.
Catholique. Vous savez ce que c'est la différence entre un musulman, mais aujourd'hui,
absolument,
dans le Nigeria d'aujourd'hui, ce serait impossible. Impossible. Donc, c'est une différence qui est manipulée politiquement parce que c'est la façon la plus facile, en fait, de faire sortir les gens, de les faire voter, alors qu'on n'a pas forcément d'idéologie politique pour rassembler les gens. Donc, c'est facile de dire, moi, je suis Ibo, moi, je suis Hausa, moi, je suis machin. C'est simple. Mais donc, moi, je ne pense pas que fondamentalement, ces différences sont si terribles que ça. C'est juste que les gens manipulent tout ça.
Et encore, en plus de cela, c'est qu'au départ, il n'y avait pas cette instabilité parce qu'on avait négocié une fédération. Donc, on a le sud-ouest, le sud-est, les régions avec le premier ministre et un centre qui n'était pas aussi puissant que ce aujourd'hui. Que nous avons aujourd'hui. Parce que ce sont les militaires qui nous ont imposer ce système tellement centralisé où tout se concentrait, le pouvoir se concentrait au niveau fédéral. Ce n'était pas ce qu'on a...
Non, tu vois, tout à fait raison, mais le facteur essentiel était que le fédéralisme qu'on pratiquait à ce moment-là était largement fondé sur le régime parlementaire. À ce moment, les régions pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Tu as bien mentionné le fait qu'au niveau fédéral, le gouvernement central n'était pas si puissant. Mais lorsque nous parlions de la fédération du Nigeria, la fédération, c'est bien différent du système fédéral. La fédération, dans les années 60, les régions avaient des missions consulaires.
Oui, chaque région, c'est justement ce qu'on dit.
Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir central
l'autonomie
est beaucoup trop fort. Mais en même temps, quand on vous entend, on se dit, quand on regarde, il y a des États qui ont carrément pris leur autonomie, qui ont déclaré la charia chez eux, sans pour autant que le pouvoir central puisse faire quoi que ce soit. Vu de l'extérieur, on a le sentiment que les pouvoirs dans certains États sont particulièrement forts. Je me trompe?
Mais c'est l'un des facteurs d'insécurité, d'instabilité.
Justement, c'est de ça qu'on parle.
Parce que nous avons la Constitution, par exemple, de 1999, d'un côté, sur le plan du charia, par exemple. C'est un monde complètement différent. Ailleurs, au Nigeria, la Constitution est différente.
Donc, est-ce qu'on n'est pas là en train de reconnaître, on dit, bon, le pouvoir central est très fort, mais qu'il y a quand même des États qui sont beaucoup plus forts, finalement, qui font ce qu'ils veulent. Parce que si un État est capable de décider de la charia, d'instaurer la charia dans sa région, sans que le pouvoir central puisse l'en empêcher...
Parce que le pouvoir central est complice.
Voilà, c'est ça. Le pouvoir central est complice sur cette question de la charia.
Vous pensez que le pouvoir central avait le pouvoir de dire non?
J'ai le souvenir. Le pouvoir central pouvait dire non. J'ai le souvenir exact à l'époque, quand je lisais les journaux, et le président, donc à l'époque, Obasanjo, qui risquait de perdre dans le Nord. Et c'est là, en fait, les racines de Boko Haram, les racines de toutes les questions insécuritaires qu'on a aujourd'hui. Donc, la PDP risquait de perdre dans le Nord. Parce qu'il y avait un autre parti, est-ce que c'était la ANPP? Bref, un parti très fort dans le Nord aussi, qui disputait la victoire à la PDP. Et le moyen, en fait, de mobiliser, encore une fois, les gens, un moyen simple, dans les situations de pauvreté extrême, c'était le fait religieux. Donc, c'était une espèce d'entente, si on veut utiliser ce mot. Vous faites comme vous voulez pour nous garantir la victoire.
Donc,
et c'était simple.
C'est encore là la complicité dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire, finalement, on a tendance à dire c'est le fait du colonisateur, mais en réalité, 60 ans après, on doit un peu avoir honte de dire c'est le fait du colonisateur. C'est peut-être le fait même des leaders politiques locaux, non?
Moi, Gaddafi, quand il était vivant, il a dit à tout le monde que jamais il n'y aurait pas de la paix au Nigeria sans qu'il y ait un Nigeria partagé, divisé en deux. Le nord musulman
Et le sud,
le sud chrétien.
Mais
cela,
ça c'est le point de vue de moi-même.
Non, ce n'est pas une question de se mettre d'accord ou pas. Mais lui, en tant que en acteur, il nous a dit le problème au Nigeria, c'est compliqué. Boko Haram, quel est l'objectif? Pourquoi Boko Haram?
Est-ce que Boko Haram, c'est vraiment la religion?
Mais justement, non.
C'est la politique.
C'est pas la, c'est la politique, c'est la pauvreté. C'est un mélange de deux choses.
Oui.
Extrême pauvreté. Pendant les années, pendant plus de 30 ans dans le Nord, il y a des États où on regarde les photos de 1960, on regarde les photos d'aujourd'hui. Différence minime. Infrastructure, école, santé, maternité.
Donc, on part sur le fait que est-ce que c'est possible un Nigeria débarrassé de toutes ces guerres ethniques et confessionnelles? C'est faisable parce que certains se disent
absolument.
Au point où on est arrivé, il faut peut-être le diviser.
Parce que ce Nigeria existait avant.
Voilà.
C'est ça. Parce qu'on a connu un tel Nigeria avant. Donc.
Oui, mais est-ce qu'on peut revenir en arrière? Parce que là, les tensions sont quand même très exacerbées.
Tout a changé, tout a complètement
mais
changé.
Mais les gens vont comprendre. Les citoyens vont finir par comprendre. Si vous savez combien d'initiatives il y a actuellement, combien de mouvements où les gens essaient de reprendre leur voix et dire oh non, on en a marre.
Vous pensez que la population est plus unie qu'on veut bien le laisser
non, pas
penser?
Unie.
Non, pas unie.
Pas unie.
Elle est désunie.
Oui, mais en train de dire ce qu'ils veulent. Parce qu'avant, c'était seulement les politiques qui disaient ce qu'ils veulent.
Et vous pensez que si les populations disent ce qu'elles veulent, on peut arriver à une unité de ce grand ensemble qu'est le Nigeria?
On n'aura pas de choix.
Il n'y en aura pas.
Le professeur n'est pas d'accord avec
vous. Je ne pense pas. Moi non plus.
Oui, professeur.
Du point de vue chronologique, il y avait une conférence nationale 2014 avec son rapport. Est-ce que monsieur le président, est-ce qu'il l'accepte? Il nous a dit que les rapports de cette conférence étaient dans son tiroir, qu'il n'avait jamais eu le temps même de jeter un coup d'œil sur ces rapports.
Oui, mais quelle conférence? Vous savez, on parle très peu de quelque chose en Afrique qui me dérange beaucoup. On ne parle pas de classe sociale. On parle d'ethnie, mais on ne parle jamais de classe sociale. On ne parle jamais vraiment
justement,
de la pauvreté.
Justement, on va en parler.
Cette conférence, c'était une conférence élitiste, une conférence de personnes qui n'avaient pas intérêt à ce que la nation fonctionne. Des gens qui se sont mis ensemble à Abuja, on a partagé beaucoup d'argent, on a dépensé comme d'habitude des sommes folles pour finalement n'arriver à pas grand-chose. Donc, ça ne s'est pas fait avec le peuple. Et c'est ça le problème dès le début. Les choses politiquement
se font
entre les élites.
Entre les élites qui confisquent un peu le
pouvoir. Voilà, qui confisquent le pouvoir et le pouvoir aussi économique finalement.
Parlons d'économie. C'est un grand pays, le Nigeria, qui a beaucoup de richesses, mais qui a une richesse importante qui est le pétrole. On a le sentiment que ce pétrole-là, on n'a pas diversifié l'économie et qu'il est la source de nombreux problèmes dans un pays. Il faut quand même penser que 57% des recettes viennent du pétrole. Comment faire pour sortir de cet esclavage du pétrole dans ce pays-là? Et déjà, qu'est-ce qui fait que ce pétrole-là ne serve pas? Déjà, qu'est-ce qui fait que ce pétrole-là ne soit pas un avantage, qu'il soit devenu un inconvénient?
C'est vraiment notre grand
débat.
Un grand débat, un grand problème. Mais nous sommes en train de diversifier. Il y a des jeunes qui se mettent aujourd'hui dans l'agriculture. C'est quelque chose
qui, pour l'instant, ne représente que 20% du PIB de,
oui, mais qui va,
du Nigeria.
Qui va augmenter en importance.
Ça, vous avez le sentiment qu'on est en train de diversifier dans ce pays?
Oui, ça c'est sûr. On a commencé, ça c'est sûr.
Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail à faire. On a commencé, tous les yeux sont sur le pétrole seulement. Nous avons le charbon, nous avons les pierres précieuses, semi-précieuses, nous avons le bois, le timba, nous avons beaucoup d'autres ressources. Donc il faut que tout le monde commence à changer.
On change un peu de logiciel.
Oui, et surtout l'agriculture. Il faut chercher l'agriculture industriel, quoi.
Mais vous savez aussi que le Nigeria est devenu exportateur de entertainment, Nollywood.
On va parler de culture tout à l'heure. Donc, on va arriver à la culture dans un instant.
On est en train de diversifier.
Les musiciens aussi.
On va arriver à la culture dans un instant parce que je savais que dès qu'on dit ça, les Nigériens se disent attention, on a Nollywood et on a des grands musiciens, notre musique marche un peu partout. Mais en attendant, nous sommes le 1er octobre 2020 et dans ce pays, dans la première partie de l'année, on a importé pour 250 millions de dollars de riz. Et encore, on est à un stade où on manque de blé dans ce pays. On importe encore le blé dans ce pays. Il y a quand même quelque chose de surréaliste là.
Non? C'est encore pire. On importe aussi le pétrole.
On importe le pétrole.
Les
produits pétroliers.
Mais encore une fois, c'est la corruption. Parce qu'il y a des gens qui sont très proches du pouvoir. Leur business, en fait, c'est smuggling. Donc, beaucoup, le riz nigérian va à Cotonou, va au Niger, va dans beaucoup de pays d'Afrique.
Ce qui a d'ailleurs causé un problème, puisque la frontière avec le Bénin est fermée en ce moment.
Oui, donc tout ça, c'est aussi politique. Malheureusement, c'est la corruption. Il y a des gens très proches du pouvoir aujourd'hui qui en profitent. Donc, ce marché noir,
vous voulez dire
que
cette importation du riz sert en réalité les pays voisins. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu produire ce riz-là ou ce blé-là au Nigeria avec le territoire que vous avez, avec les terres arables qu'il y a sur ce territoire?
Bien sûr, mais ça a commencé. Le problème, je pense que vous ne réalisez pas, en fait, l'étendue de la corruption. Ça a commencé. C'est juste que malheureusement, pendant des décennies, c'était fait comme ça. On parlait des produits raffinés. Donc, le Nigeria exporte son pétrole, puis le réimporte en termes de produits raffinés. C'est une très grosse industrie.
Aucune raffinerie dans un pays qui est premier producteur africain.
Mais parce que c'est une très grosse industrie.
Aucune raffinerie qui fonctionne. Hein,
oui, parce qu'on en a. Mais qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des hommes d'affaires, des personnes qui se font beaucoup... Le moyen le plus facile, beaucoup de nos hommes politiques, c'était en fait ce business-là qui les a lancés en politique. Parce que réimporter le pétrole, c'est une des choses les plus simples à faire. C'est très peu d'efforts à la fois mental et... Mais ça rapporte gros.
Ça rapporte gros.
Donc c'est ça, c'est la corruption. C'est pas que ça ne peut pas fonctionner, c'est que ça profite à certaines personnes.
Alors quand on se balade en Afrique aujourd'hui, lorsqu'on parle de milliardaires en dollars, on pense au Nigeria, on pense à Dangote. Bref, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Avez-vous le sentiment qu'il y a une nouvelle classe d'hommes d'affaires qui se lance dans d'autres choses? Et dans quel domaine aujourd'hui?
La technologie, l'art
prend son essor au Nigeria.
L'art africain.
Et le tourisme, les gens s'organisent en privé pour essayer de lancer...
De développer le tourisme dans le pays.
Mais
ils ont un peu de mal parce qu'à l'extérieur, vous savez qu'avec l'insécurité,
etc., c'est sûr. Vous savez, le Nigeria quand même, oui, dites tout ce que vous voulez, il y a pas mal de gens qui veulent faire l'expérience de ce Nigeria. Parce que d'un côté aussi, on a cette joie de vivre, savoir-faire, etc.
Mais lorsque l'on regarde le Nigeria de l'extérieur, je dois vous l'avouer, hein, et vous le savez mieux que moi, lorsque l'on regarde le Nigeria de l'extérieur, la première image qui vient, c'est le désordre.
Bien sûr,
oui. Hein? C'est vrai ou pas, Bola?
C'est vrai. Il y a beaucoup de désordre.
Beaucoup de désordre. Et donc on se dit, comment on va aller investir dans un pays comme celui-là, où il y a la corruption dont vous parliez à l'instant, Tabia, et un tel désordre? Comment on se retrouve là-dedans? Comment on fait pour pouvoir investir dans ce pays-ci quand on arrive à Lagos? Ou bien, pour arriver, on se dit, est-ce que ça existe? Comment ils s'en sortent?
Et pourtant, les gens viennent et ils se font beaucoup d'argent. Les gens, c'est comme
peut-être
les États-Unis.
Peut-être qu'on profite du désordre, en réalité.
Malgré tout.
Même les entreprises internationales. Non, mais vous dites ça, mais vous savez, il y a un partenariat. Je parle souvent d'élites politiques parce que tout ça, c'est pas au hasard, en fait. Il y a un partenariat, même les études. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière, je crois, qui disait que au Nigeria, ils ont nommé donc des grandes entreprises pétrolières, de grandes entreprises internationales, anglaises et américaines. Ils disaient que ces entreprises ne payent pas de taxes au Nigeria ou elles payent très peu de taxes. Donc, on se dit, d'un côté, on parle de corruption au Nigeria, mais la corruption Il faut deux personnes pour que ça marche. Il faut les puissances financières étrangères et il faut aussi les puissances locales. Donc, en fait, ça profite à tout le monde, la corruption.
Parlons de ce qui a marché en économie avant d'aller dans le cinéma, même si c'est l'économie ou encore dans les autres domaines de la culture. Si on vous disait, dans les 60 ans, du point de vue économique, qu'est-ce que le Nigeria peut présenter de positif dans son bilan ? Que diriez-vous, professeur ? Prenons les choses dans ce sens-là.
Bilan, je pense que...
Votre hésitation ne fait pas bon à voir.
Le pétrole est une source de problème de Nigeria. Problème parce que même si Tabia essaie de nous faire accepter et comprendre que le problème du Nigeria, c'est un problème de corruption. D'une part, elle a tout à fait
revenir en arrière. Moi, j'ai envie qu'on parle au moins des choses,
ce qu'on a de positif.
Oui, mais qu'avons-nous de positif au Nigeria? Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre bilan?
Écoutez-moi bien. Il n'existe pas un pays dans le monde où le problème de corruption n'existe pas. Corruption, ça existe partout dans le monde.
Oui, mais bon, il y a des endroits où c'est endémique. Il y a des endroits où c'est très grave.
Mais dis, qu'est-ce qu'il y a de pétrole. Positif?
Oui, parce que si on passe le temps
Le secteur de musique, il y a un positif là-bas.
Le bilan...
Avant d'arriver à la culture, j'ai bien posé le postulat. Avant d'arriver à la culture où le Nigeria s'illustre, si vous deviez regarder dans votre économie en disant, dans les 60 dernières années, voici ce que nous avons développé et dont nous sommes fiers, ce serait quoi?
La communication. Auparavant, il n'y avait pas de communication au Nigeria. Le potable, es-tu...
L'eau potable.
Le potable, cellulaire.
Ah, le portable, parce que j'allais dire, cellulaire. En matière d'eau potable, on ne peut pas dire que l'eau coule beaucoup dans les robinets.
L'Internet, quand nous étions petits, il n'y avait pas l'Internet.
On ne l'a pas inventé.
Non, mais on a fait entrer ça.
Moi, je dirais les Nigérians.
Oui, c'est vrai.
C'est ça. Ce que j'allais dire. Les Nigérians eux-mêmes.
Expliquez-le, Rémi.
Allez partout dans le monde. Vous trouverez des Nigérians à la tête de chaque institution,
à l'étranger, oui.
Que ce soit aux États-Unis, le Nigérian.
Ce n'est pas un bilan économique.
Non, il a laissé tomber l'économie.
Je n'ai rien laissé tomber du tout. J'essayais de trouver ce qu'on a fait de bien en 60 ans. Parce qu'on dit la plus grande puissance économique du sud du Sahara, c'est le Nigeria. Maintenant, je demande à 4 Nigériens assis autour d'une table, qu'est-ce qu'on doit mettre de positif là-dessus? Qu'avez-vous à montrer au monde que voilà ce que nous avons réussi dans le domaine économique? Et là, tout le monde est en train d'hésiter un peu. On se dit,
Je n'hésite pas.
Les Nigérians. Les Nigérians. La ressource humaine nigérienne.
Mais on a aussi parlé. J'avais mentionné notre Nollywood.
Oui.
Qui est en train de conquérir le monde, que vous le voulez.
Non, la vérité, pour moi, un des problèmes, on a un gros problème économique au Nigeria, c'est le Nigeria est une puissance financière, mais pas économique. Quand je dis financière, je veux dire, il y a beaucoup de capitaux étrangers, il y a beaucoup de richesses au Nigeria, mais ces richesses sont accaparées par un très petit nombre,
parce que quand on arrive à Lagos, ceux qui habitent autour du pont ou ceux qui sont à l'entrée de la ville, quand on leur dit qu'ils sont un grand pays, ils se disent j'aimerais bien comprendre. Quand on leur parle de la croissance, ils vous disent la croissance, on ne la mange pas.
Donc nous sommes une puissance financière dans le sens où sec. Voilà, on a beaucoup de millionnaires, on fait beaucoup de trading en dollars. On a toutes ces choses là. Le Nigeria, c'est un mini New York d'une certaine façon financièrement, mais pas économiquement, dans le sens où du vrai trading de richesses, de noix de coco, d'agriculture, toutes ces choses là qui font que les vrais gens de la société puissent participer économiquement. On a malheureusement ça reste encore à faire. C'est pour ça que j'hésitais vraiment.
On a du mal à définir.
Quand on parle d'un bilan économique, il faut qu'on fasse une distinction entre bilan au niveau gouvernemental, bilan au niveau du peuple.
De population.
Ici, nous pouvons parler d'un bilan positif au niveau économique, mais jamais au niveau gouvernemental. Ce que les colonisateurs ont fait, le fondement qu'ils ont laissé pour le Nigeria, c'est ce que nous savons aujourd'hui. J'ai été à Calabar une fois, par exemple, aux prisons de Calabar, quand j'étais au ministère de l'Intérieur. On a visité. Et j'ai vu que la clé de la porte de prison, c'est la clé qui a été mise en 1911. Vous pouvez y aller.
Il ne faut pas rire. Hein.
La chambre,
non, c'est triste.
La
mais...
chambre qu'on avait mis au Bafemi Awolowo. J'étais là, oui, pour jeter un coup d'œil. Fortement gardé. Mais les prisons que les Nigérians, après l'indépendance, ont bâti. Le bâtiment est cassé, c'est tombé, tout ça.
Finalement, quand on entend ça, on se dit, à quoi dire... ça a servi finalement l'indépendance?
Ah non, grave. Mais il ne faut pas dire... Non, il ne faut pas dire ça.
C'est moins bien, non. Je me réfère à ce qu'il dit. Oui, s'il dit qu'avant c'était mieux, et que quand on a construit, c'était moins bien.
Non, c'est pour dire, quand on parle d'un bilan économique, pour moi, je partage les points de vue de tout le monde ici. Mais la réalité économique, la réalité politique, il faut qu'on en parle.
Alors, on est en train d'en parler, et comme on est limité par le temps, il faut qu'on aille à l'essentiel. On doit aller à l'essentiel, en réalité. Aujourd'hui, j'ai demandé, tout le monde a eu un peu de mal pour parler de ce qui marche bien, etc. J'attendais que les femmes disent l'émancipation des femmes dans ce pays.
Quel
leadership féminin.
Quelle émancipation?
Ça ne marche pas bien du tout.
Je viens du Sénégal où on m'a parlé de l'émancipation des femmes, que c'était l'un des plus
grands acquis. Au Sénégal, mais pas au Nigeria. J'ai des amis sénégalais qui me parlent du mariage polygame, qui disent qu'il y a des limites, par exemple, au nombre des femmes. Même si on se dit musulman, on ne peut pas, par exemple, légalement épouser
plus de 4 femmes.
Au Nigeria, il n'y a pas ce genre de... Il y a des pays en Afrique, je crois que c'est en Tunisie, soit au Maroc ou en Tunisie, je ne sais plus, où même la polygamie carrément n'est pas légale. Mais c'est, pourtant, ce sont des pays musulmans, majorité musulmane. Au Nigeria, la religion, même parmi les chrétiens, est manipulée pour garder en fait les femmes, comme on dit, un peu à leur place. C'est-à-dire dans le domaine un peu domestique. L'émancipation des femmes, je ne vois pas, je ne connais pas.
Dans ce domaine-là, ça n'a pas marché. Là encore, ça n'a pas marché.
Un bon chemin à faire.
Alors, parlons.
Mais l'émancipation des femmes au Nigeria, c'est vrai.
Dans le système bancaire, il y a beaucoup de femmes qui sont banquières, qui sont PDG, qui sont... Mais encore une fois, ça reste au niveau des élites. La femme dans le marché, j'ai envie de dire, la majorité des femmes nigérianes n'ont pas accès à tous ces systèmes de support-là, encore une fois.
Mais je peux dire quand même que parmi les Yoruba, par exemple, il y a un certain niveau d'indépendance. Traditionnellement, pour les femmes, les femmes qui sont commerçantes, elles peuvent partir, aller acheter des choses pendant 3 jours, etc., avant de revenir.
Avant de parler de ce qui a vraiment marché et dont vous êtes si fiers, j'ai envie de parler quand même des infrastructures.
Vous ne voulez que parler de choses tristes, en fait.
On n'en veut plus. Donc je n'ai pas le droit de parler des routes alors.
Non,
j'arrête alors. Bon, d'accord. Oui. On ne va pas dire qu'on a fait 6 heures de route pour partir, pour faire à peine 3 km. On
ne
dit pas ça.
On
se tait. Non, ça n'existe pas.
Non.
Depuis 60 ans, tout va bien.
On
n'en
parle pas.
Voilà. Alors, on va parler de ce qui vous fait plaisir. Tout le monde va dire... Alors, comment expliquer Nollywood? Comment expliquer le succès de Nollywood? C'est une volonté politique.
C'est la génération de... Les jeunes.
T'as bien?
Nollywood, non, c'est intéressant parce que je me souviens encore, parce que c'est pas si vieux que ça finalement.
Non.
Parce que je me souviens quand j'avais à peu près 10 ans, donc j'étais à l'école bien sûr, et C'est un moment où on écoutait encore beaucoup plus de musique étrangère et il n'y avait pas encore cette grande fierté d'être nigérian. Alors qu'aujourd'hui, donc une quinzaine, vingtaine d'années plus tard, on peut par exemple faire une fête au Nigeria et ne pas jouer une seule musique.
Ah oui, non, c'est la règle. Ici, oui. On n'écoute pas de musique étrangère.
Et je pense que ce que Nollywood a fait, c'est de prendre quelque chose qui existait déjà. Il y a cette capacité nigériane de faire du théâtre de tous les jours.
C'est-à-dire qu'on a créé un phénomène d'identification sur les télévisions.
Voilà,
les gens se voyaient à la télé, en gros. Parce que c'est le pays où on n'a pas eu beaucoup de télénovelas.
Oui, quand on se rencontre entre des amis, etc., donc toutes les plaisanteries, les choses, c'est ça le les Nigériens. Et avec l'arrivée de Nollywood, c'est une sorte de donner forme.
Et la musique. La musique, nous, ma génération qui n'est pas... si vieille que ça, mais quand même.
On ne va pas vous demander quel âge.
Non, ne me demandez pas mon âge. Ma génération a écouté les Fela, Kuti, à l'époque, etc. Ouais. Et c'était le High Life ici, qui était connu en Afrique, qu'on aimait bien. Mais là, il y a une nouvelle génération qui a tout bouleversé. Qui a gagné le monde. Et qui gagne beaucoup d'argent.
Ah oui.
C'est le domaine dont on est le plus fier ici.
Le secteur de musique, voilà. Maintenant, au Nigeria, c'est fort. On a envahi le monde. J'étais à Londres et j'étais dans un grand magasin, Selfridges, et là-bas, on jouait la musique nigériane.
Je peux vous rassurer, même à Singapour, j'ai écouté de la musique nigériane.
Aux États-Unis aussi, partout dans le monde, les Davido, les Whiskey, les jeunes.
Mais vous savez, par contre, ce qui est... Vous avez deux choses à dire sur cette question-là. Donc, d'un point de vue, je suis totalement d'accord avec vous, c'est que les Nigériens ont, et c'est quelque chose que je ne pense, on ne retrouve pas en Afrique francophone forcément, les Nigériens ont une fierté, un amour propre, un amour de soi, qu'en Afrique francophone, on ne trouve pas. L'Afrique francophone regarde encore la France comme l'exemple à suivre, alors que les Nigériens se sont construits, se sont auto-construits, comme les Américains, on est self-made, on s'aime, on se projette sur le monde, un Nigérien qui est à l'étranger,
on n'a pas besoin de faire comme l'autre.
Voilà, alors qu'en Afrique francophone, par exemple, il y a toujours ce désir de se franciser, d'être blanc, j'ai envie de dire.
Merci pour nous.
Les sont très fiers. Mais par contre, l'envers de ce point de vue, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je pense que c'est triste quand même que la musique nigériane a aussi perdu quelque chose, dans le sens où ce n'est plus politique. On ne parle plus, par exemple, vous parliez de Fela. Fela avait un message.
Il avait un message,
voilà.
Aujourd'hui, c'est make money.
C'est make money. Et puis le problème, c'est que comment on make money au Nigeria, justement, par la corruption. Donc on célèbre plein de choses. On célèbre des valeurs, en fait, qui tuent le pays. On célèbre le fait de, pour les femmes, par exemple, de chercher un aladji, un homme riche, même s'il faut être sa dixième femme, coûte que coûte, on va aller là-bas.
C'est vrai que dans toutes ces musiques, on célèbre l'argent.
C'est l'argent.
Chop my money.
C'est l'argent. Et justement, donc, on a une jeunesse qui écoute tout ça et qui se dit, bon, le seul moyen au Nigeria pour se construire, pour se faire, c'est justement de break the law. Il faut faire quel que soit la drogue, que ce soit par n'importe quel moyen, 419, il faut réussir par tous les moyens.
Donc, j'ai envie de dire, est-ce que l'État accompagne cette culture? Est-ce que l'État accompagne, par exemple, Nollywood pour que ça fasse autant d'argent? Parce que Nollywood, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars.
Très peu, finalement.
Très peu. Pratiquement pas.
Bah, oui.
Parce que tous les succès que l'on a, c'est malgré l'État. Vraiment.
C'est vraiment les gens qui les font.
C'est les gens qui descendent de faire.
Donc, en gros, nous, on se souvient aussi que les Nigérians étaient très smart, très british. Hein. C'est plutôt que ça a changé avec le temps. Hein, ils étaient tout aussi british que les francophones. Ils étaient très, très francisés, mais maintenant, ça a changé.
Ce qui est intéressant, justement, c'est que nous, on continue à se réinventer, à créer une culture authentiquement nigériane.
Ce qui est à votre honneur, tout à fait. Mais je ne peux pas terminer cette émission sans évoquer le nombre de personnes qui sont laissées sur la route ici. Le social ici est vraiment malade.
Oui.
On ne peut pas dire le contraire. Quand vous vous baladez, vous voyez la grosse richesse, mais vous voyez aussi la très grande pauvreté. La très, très grande pauvreté. Quelle solution? Est-ce que quelqu'un peut ébaucher une solution possible pour combattre ce fléau qui est l'inégalité sociale.
C'est une question, Rémi. Moi, je pense, des dirigeants. C'est pour cela que moi, je me suis impliqué dans la politique. Parce que sans changer la qualité des gens qui sont investis du pouvoir de nous gouverner, de régir toutes ces affaires, etc. Ça ne va pas changer. Parce que quand on a des gens qui pensent que les filles n'ont pas vraiment besoin d'aller à l'école, on a un membre du Sénat qui est venu montrer ses quatre femmes dans
la maison.
Et dire qu'il a 27 enfants, etc. Donc, il faut changer la qualité des gens, des dirigeants.
Des leaders.
Changer les leaders. Professeur, malheureusement, on arrive au terme de...
C'est un problème de volonté politique. Il n'y en a pas. Et ce sera très difficile dans les jours à venir d'avoir une volonté politique. Sans qu'il y ait une volonté politique en cette direction,
on ne changera rien.
On
ne fera pas bouger les lignes. Malheureusement, on laisse trop de monde sur le bas-côté de la route.
Ouais.
Mais on m'en voudrait aussi de ne pas dire que c'est l'un des rares pays où il y a des milliardaires qui répondent à des marchés qui étaient totalement réservés aux grandes firmes internationales. C'est aussi ça, je croyais que c'est ce que vous mettriez en avant, qu'aujourd'hui, les grands marchés ne sont pas trustés par les firmes venues d'ailleurs.
C'est vrai. Mais honnêtement, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que ça reste, encore une fois, des richesses qui n'ont aucun impact sur les populations.
Donc, c'est pour ça que
moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Ouais. Mais je voulais juste dire une petite chose assez rapidement. C'est que quand on parle de questions sociales au Nigeria, on oublie toujours l'effet pervers de l'ajustement structurel. Tous ces programmes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est ça, en fait, qui a changé le fait qu'on n'investit plus dans l'éducation ni dans la santé. Tout a été privatisé, tout a été mis entre les mains de personnes qui n'avaient pas nécessairement la capacité à fournir ces services. Ça a été privatisé avec beaucoup de corruption et les choses ont été faites. Donc, un scénario vraiment a été créé.
Ça a été dans l'ensemble
des pays africains.
Et puis on vit ça en ce moment, puisque au moment où on parle, on a la coupure d'électricité, la question de l'énergie, qui vient bien montrer à quel point on est malade. On est au Nigeria et on est dans le noir. Toutes les lumières se sont éteintes. Il va falloir faire démarrer le générateur. Et c'est ce qui fait un bruit épouvantable dans cette ville, parce qu'il faut avoir son générateur pour avoir de l'énergie en permanence. Nous arrivons au terme de ce débat africain spécial 60 ans d'indépendance au Nigeria. Merci madame, monsieur d'avoir accepté notre invitation dans cette ville où les distances sont toujours très longues et le trafic particulièrement chargé. Une ville en plein devenir, les choses semblent s'accélérer. Nos remerciements également à Sébastien Faye, la cheville ouvrière de ce rendez-vous à Lagos. Ali Cabré, notre fixeur. À Moïse Gomis, notre correspondant ici. Razak Dizou, Francis Adenuga, Dele Glover, à Delphine Michaud et Olivier Raoul, restés à Paris. On caresse l'espoir que pour les 70 ans d'indépendance de ce grand pays, la route pour venir jusqu'ici sera plus digne de la grande puissance économique vitrine de l'Afrique subsaharienne où nous nous trouvons. Nous reviendrons, c'est sûr, sur les dessous de cette série d'indépendances africaines qui ont montré à quel point le continent noir est loin d'être intégré malgré les slogans sur l'unité, sur le panafricanisme, sur la zone de libre-échange économique, le ZLECA. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.